Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Le diabète de type 1, tout savoir, tout comprendre sur Sud Radio et surtout, hein, c'est l'ADN de service compris, être guidé, être conseillé, c'est possible avec un professeur de médecine, Boyan Christophorov. Bonjour professeur.
Bonjour Véronique.
On a l'habitude de vous retrouver maintenant un certain mercredi entre 13h20, 13h25, elle est aujourd'hui, hein, c'est plutôt du 13h28, mais Serge Maître a été bavard, on lui pardonne parce qu'il a bien conseillé les auditeurs. Donc on vous retrouve et ce jusqu'à 13h55. Donc le diabète de type 1, vous avez la moindre question, vous voulez témoigner, hein, pour encourager, aider ceux qui sont à l'écoute de Sud Radio et qui souffriraient aussi de cette pathologie, eh bien vous n'hésitez pas, c'est tout de suite qu'il faut faire le 0826 300 300 et il y a notre boîte mail aussi contact@sudradio.fr et puis notre page Facebook Sud Radio Service Compris. Alors professeur, vous êtes gastro-entérologue, ancien chef de service interniste à l'hôpital Cochin. La semaine dernière on a évoqué le diabète de type 2 qui touche 3 millions de personnes en France, c'est quand même pas rien, moi je suis toujours estomaqué par ce chiffre. Le diabète de type 1, c'est seulement, si j'ose dire, 150 000 personnes. D'abord, rappelons pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, quelle est la définition du diabète ?
Le diabète, c'est l'impossibilité de l'organisme de faire entrer le sucre dans les cellules et de les faire fonctionner. Vous savez, les sucres, les glucides, ce qu'on appelle, c'est tout ce que nous mangeons, l'amidon, le riz, le pain, les pommes de terre. Alors, à chaque fois qu'on mange, ces glucides sont transformés en glucose, désormais on parlera de sucre, et passent dans le sang. Alors, à ce moment-là, quand la glycémie, le sucre dans le sang, monte, le pancréas fabrique de l'insuline, et l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, dans les muscles, dans les glandes, tout ce qui fait fonctionner l'organisme. Dans le diabète, et notamment dans le diabète de type 1, il n'y a plus de fabrication d'insuline. Donc, l'organisme doit se débrouiller autrement.
Donc, différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ?
La différence, c'est que dans le diabète de type 2, il y a de l'insuline. Cette insuline, souvent, est empêchée de fonctionner, mais elle fonctionne quand même et on peut l'aider. Tandis que dans le diabète de type 1, il n'y a pas d'insuline.
D'accord, donc maintenant on arrive à soigner les gens, mais dans le temps on en mourrait, c'est ça ?
Bien sûr, les gens mouraient, il y a des exemples célèbres, des gens qui sont morts du diabète sucré.
Alors, 150 000 personnes en France souffrent du diabète de type 1. Quelle est l'origine du diabète de type 1 ? Parce qu'on parle d'origine génétique.
Il y a un peu de tout. Il y a de la génétique, il y a des pathologies, des maladies de rencontre, des virus qui détruisent la glande pancréatique, ou bien des phénomènes d'auto-immunité, c'est-à-dire que l'organisme détruit lui-même ses propres cellules. Le résultat est le même, il n'y a plus de fabrication d'insuline.
Et est-ce qu'on sait qu'on souffre d'un diabète de type 1 ? Il y a des symptômes ?
Absolument, il y a des symptômes, contrairement au diabète de type 2.
Le diabète de type 2, rappelons, hein, parce qu'on a bien insisté là-dessus
2,
la semaine dernière.
C'est le diabète des gens d'âge avancé, plutôt corpulents, et qui, avec le régime et les médicaments par comprimé, peut s'améliorer de manière très importante.
Et rappelons-le, on peut vivre avec des années sans se rendre compte qu'on l'a.
Voilà. Bien entendu, mais on peut vivre aussi très longtemps avec un diabète de type 1 actuellement.
Oui, mais alors le diabète de type 1, comment sait-on qu'on l'a ?
On le sait parce que il y a beaucoup de sucre dans le sang. Ce sucre oblige l'organisme à l'uriner. On urine énormément.
Donc on va très souvent aux toilettes.
On appelle ça la polyurie. On pisse beaucoup et on a soif, on boit beaucoup. Et puis, comme le glucose ne rentre plus dans l'organisme, l'organisme doit trouver ailleurs ses nourritures et on maigrit. L'amaigrissement rapide est un des signes très importants du diabète.
Et alors, quelles sont les complications possibles ? Parce qu'on a vu avec le diabète de type 2 qu'il y a beaucoup de complications.
C'est les mêmes, en plus graves et en plus précoces.
Oh là là, c'est-à-dire
tout l'organisme,
alors,
ben tout. Alors,
tout l'organisme se déglingue.
La liste, les vaisseaux, les gros vaisseaux, les petits vaisseaux, le cœur, le système nerveux, la rétine devient aveugle, les reins, on a une insuffisance rénale. La plus grande partie des gens qui sont actuellement en hémodialyse pour insuffisance rénale sont des diabétiques. Les nerfs périphériques, la peau, le risque des infections. Et il y en a encore
Alors, on a vu la semaine dernière, et heureusement, hein, que malgré ces complications, les diabétiques arrivaient à vivre, et à vivre pour certains d'une façon tout à fait correcte. Donc, grâce à la fameuse pompe à insuline, c'est ça ?
Non, la pompe à insuline est un progrès, effectivement, mais grâce à l'administration régulière d'insuline. Ça a sauvé les diabétiques, et vous savez, il y a des gens, moi, je viens de perdre un de mes patients qui est un diabétique à l'insuline depuis l'âge de 8 ans, il est mort à 95 ans.
D'accord.
Donc on peut, si on se soigne bien, si on est rigoureux dans son régime et qu'on sait se servir de l'insuline, on vit presque aussi bien, presque aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas cela.
Et alors ça veut dire quoi se soigner bien quand on souffre d'un diabète de type 1 ?
Alors c'est une éducation. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas dit où les diabétiques doivent être soignés. Les diabétiques de type 2 doivent voir un diabétologue, mais ensuite peuvent être surveillés par leur médecin généraliste. Les diabétiques de type 1 doivent relever d'un centre de diabétologie. On leur apprend à s'alimenter, on leur apprend à se servir de l'insuline, et ils doivent être régulièrement surveillés, contrôlés.
Et c'est eux qui se font leur propre piqûre ?
Évidemment.
Hein ?
Bien
oui,
sûr.
Bon, on ne sait jamais, vous savez.
Bien sûr. Non. L'éducation comporte cela, puisque maintenant on arrive actuellement à 4 injections par jour.
4 injections par jour,
oui.
Quand même,
hein. Oui, puisqu'on mange 3 fois. À chaque fois qu'on mange, le sucre rentre dans le sang. Donc il faut de l'insuline pour l'utiliser. Et puis on donne une 4e dose qui couvre un peu tous les 24 heures.
On accueille Amélie qui a une question, bien sûr, pour vous, professeur Christophe Orof. Amélie qui a fait le 0826-300-300. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour Amélie.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, je vous appelle parce que j'ai une question, évidemment. Je suis avec quelqu'un, mon compagnon a un diabète de type 1 et on songe à avoir un enfant. Et je me demandais quels sont les risques. Ou est-ce qu'il y en a tout simplement que cette maladie se transmette à mon enfant ?
Il y a un risque très faible, mais vous ne devez pas en tenir compte. Parce qu'il y a des gènes qui circulent partout et qu'on ne connaît pas et qui peuvent favoriser le diabète. Donc aucun risque. Pour une femme avoir une grossesse, une femme atteinte de diabète de type 1, c'est un peu plus difficile, ça augmente la nécessité de surveillance. Mais pour un homme, rien du tout. Vous faites comme si de rien n'était.
Donc vous pouvez avoir votre bébé, Amélie.
Parfait, c'est une super nouvelle. Merci beaucoup.
Merci Amélie, passez une belle après-midi à l'écoute de Sud Radio. Professeur Boyan Christophorov, donc vous nous avez quand même dit en préambule que le diabète de type 1 pouvait avoir une origine génétique. Donc là, statistiquement quand même, il y a des statistiques sur un tel sujet.
Oh, il y en a plein.
C'est-à-dire dans le cas d'Amélie,
il y a un surcroît de risque, mais il est faible et il ne doit pas gréver la vie des gens.
Oui, bien sûr. Non, mais ça, vous êtes là pour rassurer, pour être positif. Mais quand on a un mari diabétique et que la femme n'est pas diabétique, statistiquement, les chances sont de combien ? 25% ?
Oh, bien moins. Non ? Bien moins.
Ah bon, c'est vraiment la transmission du diabète de type 1 par voie génétique est quand même extrêmement rare.
Non, elle n'est pas. Il y a un surcroît de risque, si vous voulez. Mais si on faisait cette génétique-là, personne ne vivrait. Car il y a tout le temps des surcroît de risque de quelque chose. Et il faudrait être nazi et faire la sélection génétique.
Alors justement, à propos de ces questions que l'on peut se poser sur ce diabète de type 1, la génétique, quelles sont les recherches dans ce domaine puisqu'il y a une part de génétique ? Est-ce que la génétique est au cœur de la recherche dans le diabète de type 1 ?
C'est surtout l'immunologie qui est au cœur de la recherche du diabète de type 1 car il y a des mécanismes auto-immuns, que ce soit génétique ou pas, qui entrent en ligne de compte dans l'apparition du diabète.
Mais ça veut dire que dans les 5% d'origine du diabète qui sont vraiment d'origine génétique, on pourra à l'avenir peut-être isoler ces gènes, les travailler, enfin quand on voit...
On est loin de ça. Vous savez, ça pose d'énormes problèmes. Je vous l'ai dit, si on isolait et on tenait compte des gènes de prédisposition, personne ne vivrait tranquille.
Ah ça c'est sûr, si on savait ce qui nous attend, même on resterait couché.
Quand on vous dit que vous avez 5% de chance, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'êtes qu'une seule personne, vous n'êtes pas 100%.
Le professeur Boyan Christophorov qui vous offre son service compris jusqu'à 13h55. On parle du diabète de type 1. Je n'ai pas fini, hein, bien entendu, de lui poser toutes les questions. Mais il y a les vôtres, il y a votre vie, il y a vos témoignages. Il y a les solutions dont vous avez besoin si vous êtes diabétique pour bien vivre. Donc vous faites le 0826-300-300 pour être avec nous dans un tout petit instant. Il y a notre boîte mail aussi. Hein, je vous le rappelle, si vous ne pouvez pas nous appeler et que vous nous écoutez au travail, notre boîte mail contact@sudradio.fr. Et puis notre page Facebook, Sud Radio Service Compris. Allez, soyez nombreux, à tout de suite.
Sud Radio Service Compris.
Véronique Jacquier.
Vos questions sur le diabète de type 1, le professeur de médecine gastro-entérologue Boyan Christophorov avec vous jusqu'à 13h55, un quart d'heure donc pour parler du diabète de type 1, pour écouter vos questions, pour entendre vos témoignages. Professeur, on accueille et on écoute bien sûr Patrick. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Bonjour
Patrick. Bienvenue sur Sud Radio.
Merci à vous. Donc,
Je
vous parle un petit peu de mon témoignage. Donc moi, je suis le papa d'un enfant qui a un diabète de type 1. Aujourd'hui, il a 14 ans. Il a eu à 17 mois, ce qui est très jeune, parce qu'on ne naît pas avec le diabète de type 1. Donc, on l'a découvert avec les symptômes qui ont été rappelés tout à l'heure. Hein. Il vivait beaucoup, il faisait beaucoup pipi, sauf que comme c'était en juin 2003, lorsqu'il faisait très chaud, lors de la canicule, nous, ça ne nous a pas forcément alertés en tant que parents. On ne connaissait pas du tout le diabète de type 1. Il a fait une détresse respiratoire et il est tombé dans le coma avec un pronostic vital engagé. Et bien heureusement, il a pu être sauvé. Donc c'est vrai que ce sont des symptômes habituels, mais que peu de gens connaissent au final, hein, parce qu'on n'a pas la fièvre, on n'a pas de douleur, et qu'on a été pris un petit peu dans notre monde de tout ça pour le diagnostic. Bon, il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui en France, il y a entre 5 et 10 enfants qui meurent chaque année suite à un diagnostic trop tardif par rapport à ces symptômes qui ne sont pas connus. Voilà. Et donc aujourd'hui, il est ado, il est d'abord un ado, donc moi je parle d'un adolescent qui vit avec un diabète de type 1. Il est à 5 injections par jour, comme vous avez dit, il se contrôle la glycémie 6 à 8 fois par jour. Il mange équilibré, c'est pas un régime. Hein. Aujourd'hui, grâce au progrès des insulines, hein, on peut faire ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est le traitement qui s'adapte à ce qu'on mange. Et donc, il mange aujourd'hui de tout, sauf qu'il anticipe, et puis il évalue ce qu'il mange pour manger de manière équilibrée et vivre son adolescence comme tout le monde. Quoi. Voilà.
Oui, c'est un témoignage très précieux. Effectivement, vous rappelez qu'il peut y avoir un diabète de début infantile, c'est pas très fréquent. La plupart du temps, c'est plus tard, c'est pas comme nourrisson. Qu'ensuite, c'est évidemment une lourde charge à porter.
Oui, pour les parents.
Les êtres jeunes ont des capacités d'apprentissage extrêmement fortes et on est toujours surpris de voir que ces gens jeunes savent jongler avec l'alimentation, le dosage de la glycémie au bout du doigt, les doses d'insuline, et ils sont souvent d'excellents diabétologues, quelquefois même meilleurs que
les adultes. Oui, Patrick.
Oui, et effectivement, aujourd'hui, il est complètement autonome. Il fait beaucoup de sport, parce qu'il est très sportif. Il a fait un voyage linguistique en Angleterre l'année dernière. Là, il est chez ses grands-parents et il vit comme tout le monde. Je dirais peut-être la plus grosse difficulté, c'est pas tellement les soins, c'est plutôt le vivre avec au quotidien, peut-être le regard des adultes au final, hein. Puisque chaque année, il faut faire ce qu'on appelle un protocole d'accueil individualisé à l'école. Il faut pouvoir expliquer, dédramatiser la maladie pour ceux qui ne la connaissent pas, pour que lui permettre de vivre comme tout le monde. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça qui est difficile.
La gestion du diabète à l'école, ce n'est pas rien, oui, Patrick.
Tout à fait. Et alors, vous savez, il faut en parler, il faut que les associations le disent, il faut que les médias dont nous sommes le disent, parce que quand on voit quelqu'un sortir une seringue, à un moment donné, les gens se disent qu'est-ce qu'il y a, c'est un toxicomane ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut que les gens connaissent le sujet.
Voilà, c'est pour ça que nous le mettons à l'honneur sur Sud Radio. Patrick, vous avez dit, enfin, on comprend à travers votre témoignage que vous êtes finalement un véritable auxiliaire de soins pour votre fils. Et ce n'est pas neutre que de vivre avec un diabétique pour l'entourage.
C'est
une attention de tous les instants pour vous. Comment vous le vivez ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il est un petit peu plus grand, donc il est plus autonome, mais quand il est petit, notamment quand il est bébé, il parle pas, on sait pas s'il est haut, s'il est bas, quand je dis haut, bas, c'est-à-dire sa glycémie, hein. On sait pas s'il est en hypoglycémie, il peut faire des comas hypoglycémiques, donc effectivement c'est une vigilance de tous les instants, c'est pas une science exacte, hein. C'est toute la difficulté de réguler entre l'insuline, ce qu'on mange, l'activité physique, et donc c'est une vigilance de tous les instants, il n'y a pas un jour qui est pareil. Chaque jour est différent et on peut surtout on peut pas s'arrêter. On peut pas dire aujourd'hui moi les injections on verra ça demain, parce que c'est tous les jours 365 jours par an, 24 heures sur 24 voire la nuit, hein, surtout quand ils sont petits, qu'il faut s'en occuper. Et c'est vrai que autant je dirais l'éducation dont vous avez parlé, docteur, on nous forme à tout ce qui est soins, mais le vivre avec, eh bien on l'apprend un petit peu sur le tas, surtout quand on est parent, hein, on parlait de l'école, mais on peut parler aussi de beaucoup d'autres sujets comme ça, hein. Quand on veut confier son enfant aux grands-parents, ils peuvent être inquiets en se disant
cette question-là aussi, hein.
Il y a les frères et sœurs. Et c'est vrai que quand ils sont petits, on va s'occuper de l'enfant malade, mais il y a les frères et sœurs qui sont là aussi, qui se posent des questions, qui eux le vivent à leur manière, qui diraient c'est mon frère qui prend tout, et puis moi j'existe plus au sein de la fratrie. Donc il y a tout un tas de compétences nouvelles qu'il faut acquérir.
C'est très très vrai ce que vous dites. Et il y a quelque chose que vous avez mentionné et sur lequel je voudrais tout de suite insister, c'est l'hypoglycémie. Autant un dépassement du sucre, de la glycémie n'est pas catastrophique, on le corrige avec l'injection suivante, autant l'hypoglycémie est quelque chose de grave, ça peut abîmer le cerveau. Dans la journée, il faut que tout le monde connaisse dans l'entourage les signes de l'hypoglycémie, parce que les gens peuvent perdre conscience tout en étant éveillés. Et la nuit, c'est terrible, car l'hypoglycémie nocturne peut abîmer le cerveau. Et donc, il y a toute une vigilance autour de ce point.
Donc, quand on est diabétique, éviter d'être en hypoglycémie, c'est crucial. Hein.
Et ça veut dire que on doit manger en proportion, on doit avoir une insuline injectée en proportion de ce qu'on mange. Et il ne faut pas s'amuser à dire « Ah ben, j'ai pas d'appétit, je ne mange pas ce soir » et faire son insuline. Non. Là, on est sûr de l'hypoglycémie.
Faire très, très, très attention. Merci beaucoup, Patrick, pour votre très beau témoignage qui résume bien les choses dans l'accompagnement d'un enfant diabétique. On accueille Jonathan qui a une question pour le professeur Boyan Christopherov. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Moi, c'était juste une petite question plutôt par curiosité. Je me demandais, c'était quoi le mieux entre les pompes à insuline ou les stylos à insuline? C'était quoi les avantages entre les deux, les inconvénients, etc.
Les stylos à insuline sont presque tous généralisés, c'est-à-dire que ce sont des seringues graduées en unité d'insuline avec une aiguille, et puis on se pique, c'est au lieu, on ne met plus, on casse pas des ampoules qu'on met dans des seringues, etc. La pompe à insuline, c'est certainement l'avenir. Il y en a des très bonnes, on ne peut pas les généraliser pour des tas de raisons, à la fois techniques et psychologiques, mais l'avenir, c'est d'une part d'une pompe à insuline qui est branchée en permanence et un système qui dose l'insuline dans le sang.
Mais c'est le pancréas artificiel, non?
Exactement. Voilà, hein,
on en avait parlé la semaine dernière quand on avait évoqué le diabète de type 2. Donc, diabète de type 2 ou type 1, de ce côté-là, c'est pareil.
Oui.
Hein, l'avenir est à cette fameuse pompe à insuline qui...
Surtout le type 1, surtout le type 1. Parce que quand même, c'est un corps étranger. Enfin, il y a des tas de problèmes techniques, on ne peut pas... Comme ça,
donc pour Jonathan, plutôt la pompe à insuline avec le pancréas artificiel que le stylo à insuline.
Mais non, le stylo à insuline, c'est l'insuline tout court.
Ah d'accord.
Vous faites la piqûre avec le stylo. C'est une présentation du médicament.
Entendu, Jonathan?
Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Donc dans quelques années peut-être, alors, la pompe.
Mais il y en a qui sont en marche.
D'accord.
On vous souhaite une belle journée, Jonathan,
merci.
Et
merci
pour votre question.
Merci,
c'était bien d'avoir des questions très très précises comme ça.
Absolument.
Professeur. On accueille Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'Association française des femmes diabétiques. Vous êtes
oui.
diabétique depuis une quinzaine d'années et en fait vous voulez témoigner. Vous dites « je vis bien avec ma maladie ». Ça c'est important de le dire, parce que moi qui ne suis pas concernée par cette maladie et qui n'ai pas de diabétique dans mon entourage, comme bon nombre d'auditeurs de Services Compris, je me dis « mais enfin le diabète qui touche 3 millions de personnes, mais quand on vous entend professeur être dépendant de cette pompe à insuline, c'est quand même pas rien, hein Fabienne ?» Comment
alors,
vous gérez
non.
tout ça alors? Racontez-nous.
Alors, ce n'est pas rien. C'est vrai que le diabète est une maladie chronique, comme il en existe beaucoup. Une maladie qui impose une surveillance au quotidien, c'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, on se dit « Ah ben, quelle est ma glycémie ?» Le soir, quand on se couche aussi. Entre les deux, ben, on vit, on va manger, donc on va devoir évaluer les glucides dans ce qu'on mange, on va travailler, on va faire du sport, on va s'occuper de ses enfants, enfin, on va vivre, et il nous faut tout le temps évaluer notre glycémie et adapter nos doses d'insuline. Donc pour ça, on a de la chance de vivre dans notre pays aujourd'hui parce que les outils ont eu des améliorations phénoménales depuis des dizaines d'années.
Et ça c'est vrai, il faut le préciser, ouais. Fabienne. On a de la chance quand on est diabétique de vivre en France parce qu'il y a bien des pays où on n'a pas les mêmes soins et le même accès aux soins, j'imagine. Hein,
et la professeur. Même gratuité.
Et la même gratuité,
en plus,
bien entendu.
La même prise en charge. Donc voilà, il y a les outils, les soins, il y a aussi l'éducation. Comme ça a été mentionné tout à l'heure par le professeur, il est important de bien connaître sa maladie, de savoir comment se gérer quand on fait une hypoglycémie, une hyperglycémie, être conscient de l'équilibre alimentaire, de l'importance de l'activité physique. Et je pense
Attention, je vous arrête sur ce point, Fabienne. Rappelons, professeur, pourquoi c'est important le sport quand on est diabétique.
Mais parce que le sport diminue les besoins en insuline. Le sport, l'activité, facilite l'effet de l'insuline et facilite l'entrée du glucose dans les cellules. Ceci est vrai pour tous les diabètes.
Fabienne, quel sport pratiquez-vous?
Alors, moi, je fais pas assez de sport, mais je fais de la danse africaine.
Donc, c'est pas mal. Bah non, mais vous alliez l'utile à l'agréable.
Exactement. Hein? Ça permet aussi de se défouler.
D'accord. Et en tant que présidente de l'Association française des femmes diabétiques, quels conseils vous donnez à tous les diabétiques qui sont à l'écoute de Sud Radio là en ce moment?
Quel conseil? Je suis pas forcément bien placée pour donner des conseils, mais pour les femmes diabétiques, je leur conseille de s'informer sur la grossesse au moment où elles veulent avoir un bébé. Hein. Quand on a un diabète de type 1, contrairement à il y a quelques dizaines d'années, c'est tout à fait possible d'avoir un bébé, mais il faut se préparer. Il faut faire les examens qui sont nécessaires, faire un bilan des complications. Il faut savoir ce qui va se passer pendant la grossesse, c'est-à-dire que les besoins en insuline vont évoluer. Ça veut dire qu'il faudra qu'on soit encore plus attentive pendant plusieurs mois à avoir vraiment des glycémies les plus parfaites possibles et pour donner naissance à des bébés en bonne santé et être nous-mêmes en bonne santé. Donc le message, un des messages clés de notre association de femmes diabétiques, c'est la préparation de la grossesse. Et un autre conseil que je pourrais donner sur le vivre avec, c'est l'importance de l'accompagnement entre pairs, entre personnes diabétiques. Moi, la rencontre des associations de diabétiques a changé ma vie. Le fait de pouvoir vivre, de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose que nous au quotidien,
oui,
c'est
de pouvoir partager.
C'est aidant, voilà, de partager notre expérience, de savoir écouter, de pouvoir se donner des trucs et astuces dans une maladie chronique, c'est un élément clé de bien vivre.
Fabienne, avant de passer la parole au professeur Boyan Christophorov qui veut réagir, bien sûr, juste une chose, c'est vrai que quand on apprend qu'on est diabétique, parce qu'on l'a vu la semaine dernière et aujourd'hui, hein, on peut vivre avec le diabète et puis tout d'un coup, le médecin nous dit « mais vous êtes diabétique » et là on se prend un gros coup sur la tête. Fabienne, est-ce qu'il y a des gens qui vivent mal le diabète, qui mettent des mois à s'en accommoder parce que malheureusement ils sont obligés de vivre avec quand même et avec ces pompes à insuline?
Bien sûr, enfin, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben voilà, il y a tout un cheminement dans la maladie chronique, dans le diabète à faire. Il faut apprendre à accepter et à se donner, à acquérir sa propre stratégie, sa propre tactique pour bien vivre avec.
Et oui, donc, c'est peut-être ça le secret.
Hein. C'est le grand message. La maladie chronique, on ne se l'imagine pas bien. La maladie, on dit, tiens, je suis malade, on me soigne, je guéris. Et bien là, on vit avec. Et donc, c'est un travail d'explication extrêmement important de la part du médecin, de la part des paramédicaux, de la part des associations. Et vous faites très bien d'insister sur ce point, notamment depuis qu'il y a Internet. Il y a des forums où les gens échangent leurs impressions et c'est très important. N'oubliez pas que dans la rue, dans le travail, vous croisez des diabétiques, des gens qui se font 4 ou 5 injections d'insuline
par jour. Et on ne le sait pas.
Et vous ne le savez pas. Il y a eu autrefois un très grand champion de tennis qui avait gagné Wimbledon eh bien, il était diabétique, il se faisait des injections d'insuline. Le diabète permet une vie normale en étant bien sûr attentif.
Et c'est le message que nous faisons passer aujourd'hui. Merci Fabienne pour votre témoignage sur Sud Radio. Fabienne, présidente de l'association française des femmes diabétiques, et merci pour ces messages éminemment positifs, professeur Boyan Christophorov. Vous avez tenu à nous parler du diabète. On a fait deux belles émissions là-dessus, le diabète de type 1, le diabète de type 2. Pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, je vous rappelle bien entendu qu'il y a nos podcasts qui seront en ligne sur le site sudradio.fr en fin d'après-midi. Merci professeur, on vous retrouve très prochainement sur Sud Radio.